Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les titres de cette édition de 18h sur Radio Kapi, arrivés ce vendredi à Kisangani, de la relique de Patrice Emery Lumumba, la population du chef-lieu de la Tchopo lui rend des hommages mérités à l'esplanade de la Poste. Bonne nouvelle pour les Ituriens, le prix du carburant et des denrées alimentaires sont revus à la baisse à la faveur d'une amélioration de la situation sécuritaire sur la route Bunyamagi. Athanase Kituka Malonga, chargé de programme à la commission diocésaine Justice et Paix et membre de la société civile du Tanganyika, est notre invité. Il va s'exprimer sur le départ de la MONUSCO de cette province. Bonsoir à tous. L'actualité part de la province de la Tchopo où la population rend des hommages mérités au tout premier Premier ministre du Congo indépendant à l'esplanade de la Poste de la ville de Kisangani. C'est à l'occasion de l'arrivée de sa relique ce vendredi en provenance d'Onoloroa, son village natal. Ses mérites ont été vantés par différents orateurs, notamment le gouverneur de province par intérim Maurice Abibou Sakapela, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et l'ADG de la SCPT, ses fils Roland et François Lumumba, respectivement au nom de la famille et de son parti politique, le MNC, ont émis le vœu de voir l'esprit nationaliste du père de l'indépendance congolaise rassembler le peuple congolais autour d'un idéal commun, celui de la défense de son unité, surtout en cette période où son intégrité est menacée par ses ennemis. Jacques Moukonkoulé nous fait le point.
Outre les mérites évoqués dans son speech, le gouverneur intérimaire de la Tchopo a saisi cette opportunité pour demander aux représentants du chef de l'État de plaider auprès de lui pour la réhabilitation de certaines infrastructures locales. Ceci en vue de pérenniser la mémoire du héros national, notamment l'amélioration de la desserte en électricité et l'achèvement des travaux de la première phase de la modernisation de la ville. Maurice Abibou pense également à d'autres infrastructures.
La réhabilitation du stade Lumumba, la réhabilitation de la RN7 Kisangani-Kinshasa en passant par Ikela Bokungu, Lomela et Opala, route empruntée par l'héros national pour quitter Honolulu natal dans le Sankuru et rejoindre Stanleyville.
Pour sa part, Roland Lumumba se dit satisfait de considérer que le père de la nation peut finalement se reposer en paix après son passage à Kisangani.
Son âme n'allait pas se reposer en paix si on ne le faisait pas passer ici à Kisangani, qu'on peut considérer comme son village professionnel. Dans la première législature, il fut le seul député qui a été élu hors son inscription natale ou territoriale.
Pour sa part, le président du MNC, François Lumumba, a annoncé l'installation prochaine à Kisangani de la Fondation Lumumba en vue de travailler avec les jeunes pour le développement de cette entité. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
La relique de Patrice Emery Lumumba a quitté les Sankuru ce vendredi matin avant d'arriver à Kisangani. Le corps a été levé devant plusieurs personnalités, le gouverneur de province, les membres de sa famille ainsi que les habitants de son village. Depuis le début de la cérémonie du mémorial jusqu'à la levée du corps, l'émotion était toujours visible sur les visages de plusieurs membres de la famille qui estiment qu'ils ont enfin dignement pleuré leur fils. Quels sentiments les habitants de Onoloa ont-ils ressenti pendant la cérémonie du mémorial, 62 ans après le décès de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre congolais? Claude Lodi, membre du mémorial, s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
Chez nous, on dit c'est le corps qui est revenu au village. Je voudrais vous dire que c'est vraiment insatisfaisant pour toute la population du Sankuru parce que 62 ans après, le corps de Patrice Emery Lumumba qui était gardé ailleurs est revenu au Sankuru. Je sais vous dire tout de suite, il y a des gens qui sont venus de tous les territoires, presque toute la province, et nous étions même très contents d'être honorés par la présence du président de l'Assemblée nationale qui était le représentant personnel du chef de l'État à cette manifestation. Nous avions profité pour remercier le chef de l'État par rapport à ça parce que pour nous, il a posé un acte indélébile. C'est vraiment insatisfaisant pour la population du Sankuru et toute la communauté des Akuchu Anamongo par rapport à ça, parce que Patrice Emery Lumumba n'a jamais été pleuré normalement. Mais maintenant, il venait d'être pleuré. Il fallait vraiment voir la foule et il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. En tout cas, il y avait beaucoup d'actes. Les chefs coutumiers ont procédé à leur cérémonie. Tout a été fait normalement par la coordination du gouverneur de province, M. Jules Lodi, et président de l'Assemblée nationale et différents mandatabilité, il y avait les députés nationaux, les sénateurs, et il y avait aussi une représentation provinciale, donc tout s'est passé normalement.
Venons-en à présent à cette bonne nouvelle. En Ituri, les prix de carburant et de certaines denrées alimentaires sont revus à la baisse sur les marchés dans les différents centres commerciaux de cette province. Les opérateurs économiques attribuent cela à l'amélioration de la situation sécuritaire et la réhabilitation du trafic sur le tronçon Bunia-Mahagi. Cette baisse de prix a également une incidence sur le transport en commun. Isaac Remoyope nous raconte.
Un litre de carburant se négocie actuellement à 3100 voire 3200 francs congolais dans les stations-service à Bunia. Alors qu'il y a environ un mois, un litre s'est vendu à 4000 francs congolais. Les tarifs des transports en commun dans la ville de Bunia et sur les différents axes routiers a également baissé. Selon certains commerçants, les attaques des groupes armés sur les tronçons commandes à Bunia-Mahagi Haru sont très rares depuis plus d'un mois et cette route est en bon état grâce aux travaux de réfection financés par le gouvernement, ce qui a rendu le trafic très fluide sur cette route nationale. De nombreux camions transportant des marchandises arrivent chaque jour à Bunia à provenance des pays voisins et des zones de dessertes agricoles dans les territoires des Djougou et des Mahagi. Un sac de 25 kg d'iri est passé de 37 à 27 dollars. Un bidon d'huile végétale qui s'est vendu à 60 dollars s'est négocié à 40 dollars et un bassin de 10 kg d'haricots s'est vendu à 18 000 francs au lieu de 25 000 voire 30 000 francs congolais il y a environ un mois. De nombreux habitants s'en réjouissent et demandent au gouvernement d'accélérer le processus des DDRCS pour l'instauration d'une paix durable à Ituri. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu où la situation sécuritaire est calme ce vendredi dans le groupement de Kisigari, c'est dans le territoire de Rutshuru. Cette entité coutumière a été une fois de plus le théâtre des affrontements entre 17h et 20h locales hier jeudi entre les rebelles du M23 et les FARDC. Selon les sources coutumières locales, les villages Bugina et Buyanza ont été les cibles des attaques des rebelles. Bernard Danyangi.
Aucun bilan de ces affrontements n'est connu jusqu'à présent. Toutefois, les sources coutumières locales dans le groupement de Kisigari indiquent que ces détonations d'hier à la tombée de la nuit ont ébranlé les habitants des villages Kabaya et Moussenzero, riverains à la base militaire de Rumangabo et qui ont fui le milieu. Pendant ce temps, d'après nos sources, la situation de Bikenke Nkokwe, nord-est du groupement Kisigari et sud-est de celui de Djomba, n'est pas clairement connue. Ces localités sont passées sous occupation des rebelles du 1-23 depuis le début de la semaine. D'autres sources concordantes dans le territoire parlent des scènes de pillage qui auraient été perpétrées par les combattants du 1-23 hier jeudi dans la localité de Kabindi sur l'axe Rutshuru-Bunagana. Cette localité est abandonnée par ses habitants depuis environ 2 semaines avant d'être occupée par les rebelles le week-end dernier. Goma, Bernardine Nyangi, Radio Kapi.
Non à la chasse contre les Rwandais et les populations rwandophones vivant en RDC, mais plutôt une mobilisation populaire tous azimuts derrière les FARDC ainsi qu'une forte pression sur les gouvernants et les instances internationales pour obtenir la condamnation formelle du Rwanda. C'est dans ce sens que devraient agir les leaders sociaux, selon le professeur Naupes Kibiswa, spécialiste en analyse, résolution des conflits et prévention du génocide. Ce dernier prend part au forum régional pour la mise en place d'une stratégie et d'un plan d'action pour la prévention et la lutte contre les discours de haine en Afrique centrale. Ce forum de 4 jours qui se tient à Kinshasa depuis mardi dernier clôture ses travaux ce vendredi 24 juin. Les propos du professeur Kibiswa au micro de Noremi Sengakalala.
Notre courroux ne doit pas être déversé sur les citoyens d'origine rwandaise, mais sur les dirigeants rwandais. Alors, la première manière, c'est d'abord déclaration publique vis-à-vis du Rwanda et ses dirigeants, son armée. La deuxième manière, c'est la plus facile, celle-là, c'est pression sur les institutions congolaises et derrière elles, faire en sorte que le Rwanda soit condamné par les instances internationales, mais aussi notre armée. Nous n'avons que celle-là, les FARDC. Nous devons nous mobiliser autour d'elle, derrière elle, pour défendre le territoire national.
Notez que ce forum est une initiative conjointe du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, et de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il réunit des professionnels des médias des pays de la région de l'Afrique centrale. La rencontre de Kinshasa est la troisième de la série après celle tenue successivement à Douala, au Cameroun, du 26 au 29 octobre 2021, et à Bangui, en RCA, du 26 au 29 avril 2022. Au Kassai central, le nouveau gouverneur a rendu public hier jeudi dans la soirée son gouvernement. Dans cet arrêté signé par John Kabeya, l'on retrouve 10 ministres dont 2 femmes en dehors du secrétariat exécutif. Mais avant cela, l'autorité provinciale avait organisé des consultations de plusieurs forces vives de la province. François Kadima nous en parle.
Dans cette équipe gouvernementale, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti cher au gouverneur, bénéficie de 3 postes. C'est notamment le ministère de l'Intérieur avec Antoine Kanoulambi, l'économie et finances où l'on retrouve Jim Mukenge et les hydrocarbures avec Zakaï Kaimé. Certains d'autres partis comptent chacun un ministère. Citons entre autres Honoré Baloué de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, à l'agriculture et Willy Wichier de l'Envol aux infrastructures. La santé et l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été confiés aux femmes. Rose Kachama occupe le premier et Marie-Jeanne Toudimoné le deuxième. Le gouverneur de province a également placé une femme comme secrétaire exécutif. Bijou Koupoué est également porte-parole du gouvernement. Elle est secondée par Patrick Chamois comme secrétaire exécutif adjoint. Donc avant la publication de ce gouvernement, John Kabeya a décidé de supprimer toutes les barrières illicites sur l'ensemble de la province et la restauration de la pratique Salongo obligatoire chaque samedi de 8h à 12h. Il a aussi annoncé les démarrages des travaux de la route Kananga-Kalamambouji. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu où la 55e journée nationale du poisson est célébrée ce vendredi 24 juin dans un contexte particulier d'instabilité sécuritaire, notamment dans le territoire de Rutshuru. Cette situation a été décriée par la Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard lors des manifestations organisées à cette occasion dans l'enclave de pêche de Vichumbi, c'est au sud du lac Édouard. Selon le secrétaire exécutif de cette organisation, alors que les pêcheurs sont victimes des tracasseries sur le lac, le secteur est aussi gravement affecté par les affrontements opposant les FRDC et la rébellion du M23 dans le territoire. Josué Kambasu Mukura est joint au téléphone par Bernard Danyangi.
Pendant cette célébration, nous demandons vraiment à ce que la population soit derrière les FRDC, puisque la guerre à Rutshuru doit impacter négativement sur le bon fonctionnement des institutions au niveau du lac Édouard, et ça peut détériorer les efforts que nous avons déjà fournis pour l'assainissement du lac Édouard, puisque toujours quand il y a guerre dans le territoire de Rutshuru, le lac n'est pas épargné, le parc national de Virunga n'est pas épargné. C'est pourquoi nous demandons à ce que le gouvernement congolais puisse appuyer sur le plan militaire, sur le plan politique et diplomatique pour que la population du Nord Kivu soit sécurisée avec leurs biens. Puisque sur le lac Édouard, nous sommes victimes des arrestations. Cette semaine ici, plus de 40 pirogues ont été arrêtées par cette marine ougandaise et ils ont libéré chaque pirogue moyennant $150. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais de voir comment réglementer la pêche, baliser la frontière pour que les Ougandais ne puissent pas chaque fois capturer nos pêcheurs dans les eaux territoriales du Congo.
Rappelons que la journée nationale du poisson est célébrée le 24 juin de chaque année en RDC depuis 1967. C'est avec l'objectif de valoriser notamment les pêcheurs et promouvoir la protection des ressources de pêche et d'aquaculture. Nadège Boulaboula, directrice générale de My Success, une entreprise de transformation et de commercialisation de 2 infusions locales, notamment le Bouloukoutou et la Citronnelle, a remporté le premier prix pour la RDC de la 3e édition du prix Pierre Castel. C'est ce qui ressort des délibérations du grand jury publié hier jeudi. Ainsi, grâce à cette distinction, précise le communiqué de presse signé par le directeur général de la BRA Congo, la lauréate recevra une dotation de 15 000 euros et bénéficiera d'un programme de monitoring et de coaching. Nadège Boulaboula compte accroître et professionnaliser la chaîne de production de son entreprise, créée il y a 3 ans avec cette dotation, comme elle le dit d'ailleurs ici au micro de Jean-Marc Matouaki.
Bon, en fait, nous avons de gros défis parce qu'actuellement, la demande est extrêmement croissante et très importante. Vous savez que la RDC, c'est un sous-continent, près de 110 millions d'habitants, et la consommation de thé est un impératif parce qu'au-delà du fait que c'est un produit du quotidien, nos produits représentent d'énormes bienfaits sur la santé et donc nous devons absolument couvrir la demande et nous devons également professionnaliser notre chaîne de production parce que voilà, les consommateurs congolais ne vont pas continuer à consommer les produits par patriotisme, mais effectivement parce qu'on arrive à convaincre par la qualité, par la compétitivité. Et donc là, nous voulons investir dans l'acquisition d'un outil de production qui nous permettra de professionnaliser notre processus de séchage, parce que ça conditionne grandement la qualité de nos thés. Et nous allons également affecter une grande partie de ces financements dans nos approvisionnements locaux, en fait.
Pour sa part, Sivi Maloukissa, directrice générale de Manitech Congo, une société agro-industrielle basée à Kinshasa, a été désignée seconde lauréate et recevra une dotation qui s'élève à 10 000 euros. Elle va également bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
Actualité internationale.
En Russie, 4 morts dans le crash d'un avion de fret militaire indiquent les autorités locales. Selon des informations préliminaires, 4 personnes sont mortes à la suite d'un accident d'avion dans la zone de l'autoroute Mikhailovich, dont la ville de Ryazan signale un communiqué de la cellule de crise formée par le gouvernement régional, cité par l'agence TASS et repris par l'AFP.
L'invité.
Après le départ de la MONUSCO du Tanganyika, les organisations de la société civile sont appelées à accompagner le gouvernement pour le développement de la province. À ces sujets, nous recevons Athanase Kituka Malango, chargé des programmes à la commission diocésaine Justice et Paix et membre de la société du Tanganyika. Il explique que la MONUSCO a réalisé en faveur de la société civile et comment celle-ci compte accompagner le gouvernement pour le développement de la province. Athanase Kituka Malango s'entretient avec Fulbert Balolagué.
Athanase Kituka Malango, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes chargé des programmes au sein de la commission diocésaine Justice et Paix. Vous êtes aussi membre de la société civile ici au Tanganyika. La MONUSCO est en train de partir. Qu'est-ce que cela représente pour la population de Kalemie?
Le départ de la MONUSCO nous laisse avec un sentiment, d'une part des regrets, et l'autre sens aussi, un sentiment de pouvoir nous assumer aussi comme Congolais. Sentiment de regret parce que la MONUSCO ferme. Bien sûr qu'ils auront des unités du côté Bendera, mais nous avons la résurgence des conflits intercommunautaires et l'activisme de certains groupes armés qui mettent les conditions de vie de la population en difficulté. Et nous avons aussi enregistré des mouvements de population sur plusieurs axes, notamment sur axe Mala, littoral de lac Tanganyika. Nous avons des mouvements dans le groupement Kasanga-Nyemba et nous avons encore des mouvements de population à Kisengo où les Apanapale en coalition avec d'autres forces négatives Mai Mai Malaika sèment la désolation à la population.
Vous êtes comme CDJP, bénéficiaire des activités de la MONUSCO. Ce départ, vous avez dit, c'est un regret. Mais est-ce que vous pensez que les organisations de la société civile sont déjà prêtes pour pérenniser ces acquis de la MONUSCO?
Oui, de ce côté-là, nous devons féliciter la MONUSCO, particulièrement comme commission de saison justice et paix, parce que si je me mettais à dénombrer tout ce que la MONUSCO a fait pour la société civile du Tanganyika, c'est beaucoup. En résumé, je peux parler de l'abord de l'organisation de la société civile. Comme vous le savez, la société civile est pluriel, mais nous nous sommes retrouvés avec la MONUSCO qui nous a appuyés sérieusement à nous regrouper dans les groupes thématiques aujourd'hui. Toutes les organisations qui interviennent dans les droits de l'homme se connaissent, tous ceux qui parlent dans le développement se connaissent, et ça nous a permis d'être dans une coordination malgré notre pluralité. Et la MONUSCO nous a aussi appuyés dans les renforcements des capacités des organisations de la société civile. Il y a eu pas mal de formations sur le monitoring des droits de l'homme, sur comment rédiger des projets, comment mobiliser les fonds. Et aujourd'hui, les ONG ou les organisations de la société civile au niveau du Tanganyika sont à même de se prendre en charge et de faire entendre notre voix au niveau international.
Je suppose aussi que la part est grande pour la société civile par le fait que la MONUSCO est en train de partir. Il y a un nouveau gouvernement qui entre. Donc la société civile se retrouve au milieu qui n'a pas changé. Qu'est-ce que vous pensez faire?
La toute première chose que nous allons faire, c'est nous rapprocher avec le nouveau gouvernement. On va entendre la vision du nouveau gouvernement provincial avec qui on va travailler en partenariat. Et nous avons l'opportunité du programme PDDRC qui vient de commencer. On a vu la présence du coordonnateur national dans la province. C'est aussi une opportunité qu'on va saisir pour pouvoir, nous, comme commission de saison justice et paix, intensifier nos activités de dialogue, d'émission de bons offices et de sensibilisation auprès des groupes armés et les milices Tuatu comme Bantu, afin que nous puissions saisir cette opportunité afin que les miliciens se rendent demande auprès du gouvernement et que nous puissions penser développement après le départ de la MONUSCO.
On invite pour le moment les organisations de la société civile à participer au développement de la province. Comment vous avez trouvé cette approche de vous appeler et de participer au développement?
C'est une bonne approche parce que déjà, comme société civile, nous participons déjà au développement aux côtés du gouvernement et avec l'appui des agences des systèmes des Nations Unies. Maintenant, nous voulons parler de développement après le départ de la MONUSCO. Comme je le disais tantôt, que le développement, on ne peut pas en parler aussi dans sa forme normale, avec autant de sites de déplacés, autant de mouvements de population dans plusieurs groupements. Si cela va continuer, le développement n'aura pas son sens. En plus, dans les échanges avec le coordinateur humanitaire, on nous a invité, nous, société civile, à participer activement. C'est ici où je veux profiter aussi de lancer notre plaidoyer, parce que la plupart des organisations de la société civile n'ont même pas accès aux fonds humanitaires, que ce soit les fonds de développement. Là, nous allons demander un accompagnement encore pour que certaines organisations qui sont actives sur le terrain soient aussi dans les critères d'éligibilité aux fonds humanitaires, voire aux fonds de développement avec les agences qui vont rester dans la province du Tanganyika.
Athanase Kitoka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.